Locale,
culturelle,
indépendante,
étudiante,
musicale, Zaï Zaï Radio.
Bonjour à toutes et à tous, il y a un petit vacarme, mais voilà, pour vous faire voir un peu l'image, Fabrice se tient les oreilles car c'est effectivement très bruyant. Alors, je suis très heureuse de te recevoir, cher Fabrice Nau, auteur de BD. Bonjour Fabrice.
Bonjour Marlène.
Alors, quel plaisir et en même temps, quel défi. Et je ne parle pas seulement du son.
Bon, on va prendre en rigolant.
On va essayer, oui. Car dans 20 minutes, c'est un défi parce que dans 20 minutes, fin de l'entretien à peu près, nous aurons, je pense, à peine réussi à planter le décor. Alors là, Fabrice, je vais parler un petit peu toute seule. Une ou deux minutes.
Va, ça m'arrange.
Histoire de résumer les choses et puis tu corrigeras mes éventuelles erreurs ensuite, je n'ai pas de doute là-dessus. Moi, je vais te proposer pendant ces 20 minutes environ qu'on focalise sur ton œuvre autobiographique, parce qu'évidemment, tu as fait plein d'autres choses, mais c'est là que nous allons, que nous allons aller.
Va.
Œuvre qui a commencé il y a plus de 20 ans.
Va.
Alors, je résume. L'œuvre globale s'intitule « Esthétique des brutes ». Il y a un premier cycle qui s'appelle « Journal » avec 4 tomes, dont les 3 premiers ont été édités par Ego Comics.
Oui.
Dans ce premier cycle, on retrouve les années 90 et toi au commencement, petit garçon. Moi, c'est ce que c'est pour grand
vas-y,
résumé.
Vas-y.
Grand résumé. Hein. Sinon, on en a pour 6 heures.
Va.
Il y a un deuxième cycle, « Le dernier sergent
oui. »,
dont le tome 1, « Les guerres immobiles » est sorti en 2023 aux éditions, c'est dur avec l'audition justement, avec tout ce brouhaha, les éditions Delcourt.
Oui, c'est ça à peu près.
Voilà, et ça en 2023.
Oui, l'année dernière, septembre 2023. Donc c'est 20 ans après.
20 ans après,
à peu près.
Et là on se retrouve fin des années 90, on frôle...
Disons que les deux cycles s'enchaînent en fait en réalité, mais par contre pour la réalisation il y a eu un gap de plus de 20 ans.
On va y revenir. Là, en gros, le tableau...
Oui, plantons.
Pour ceux qui n'ont lu ni journal, ni les guerres immobiles, ou pour ceux qui auraient mal lu, je précise qu'il ne s'agit pas d'un journal chronologique, mais d'une construction bien plus complexe, avec des paysages et des portraits saisissants, enfin qui, moi, me saisissent, des temporalités, des ruptures, des niveaux de lecture, des chemins invisibles, une musicalité... qui, moi, me fascine, m'interroge et me touche, et je suis heureuse de te le dire enfin. Et pour ceux qui ne seraient pas intéressés par la question de l'homophobie et de l'hétéronormativité, que c'est dur à dire, il se peut qu'ils portent un nouveau regard en suivant un auteur, toi, Fabrice, qui habite ce monde et qui a besoin ou envie, je ne sais pas, tu me diras, de le dessiner, d'en parler le plus sincèrement possible, c'est-à-dire en y incluant les oublis, les contradictions, les errements, les silences aussi, et en ne se donnant pas vraiment le meilleur rôle. Alors, pour terminer,
Paraît-il
Fabrice,
oui,
dans Marlène. Le dernier sergent, page 38, j'adore cette case, le narrateur, bah, comme beaucoup d'autres, hein, le narrateur dit « On ne confesse jamais rien, ceci n'a jamais été un journal, intime moins encore, c'est une mise en scène, je demeure en mon fort intérieur. »
En Mazigourat, je crois, après quelque chose de cet ordre-là. Alors oui, je pense qu'il faut peut-être préciser, parce que là tu as dit d'emblée le terme journal, mais je pense que pas mal de gens peuvent entendre journal comme quotidien. Quoi.
Mais c'est la question que j'allais te poser, et je pense qu'on va...
Autobiographie, il faut vraiment se baser sur le terme autobiographie.
Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce qu'on peut revenir sur la naissance de ce projet? Pourquoi ça s'est appelé journal?
Là, ça risque de griller pas mal justement du peu de temps qu'on a.
Oui, mais pour recontextualiser.
La naissance du projet, c'est donc au début des années 90. Je sors de l'école d'art, j'ai toujours voulu me destiner à la bande dessinée. Et ce sont les rencontres évidemment à l'école, notamment avec la personne de Loïc Néou, qui devient, je le fais vraiment en un résumé figurant. Hein. Loïc Néou deviendra en fait l'éditeur de la maison d'édition Ego Comics qui est créée, on va dire, à ces moments-là, à cette occasion, autour de la moitié des années 90, et dont je suis cofondateur, mais bon, j'ai eu un rôle pendant 6 mois, hein, donc on va évacuer ça. Et la maison d'édition Ego Comics, destinée en grande partie à la publication de récits autobiographiques. Et l'un des premiers récits autobiographiques, c'est le mien. Et voilà, et l'aventure démarre comme ça. Alors, pour évacuer également très très vite le titre de journal, parce que c'est en fait un titre...
Mais tu n'es pas obligé de l'évacuer, moi je trouve ça intéressant comme question. Ça dépend ce que tu as envie de dire.
Donc, j'aimerais qu'on ne passe pas trop de temps dessus. Le terme journal me déplaît, enfin, ne me correspond pas, voilà. Au départ, ça me correspondait, mais en fait, ce n'est pas un journal. C'est-à-dire, ce qu'on entend par journal, généralement, c'est le récit au quotidien des événements quotidiens, datés, eurodatés... et en prise directe avec les événements, on va dire, on raconte le soir même ce qui s'est passé le jour, ce genre de choses. Ce qui en bande dessinée déjà peut poser une question, puisque c'est la question du dessin, donc de la réalisation, donc du temps de réalisation, et donc du type de dessin qu'on emploie. Et là, évidemment, la radio, c'est difficile de montrer ce que je fais, mais comme j'ai un dessin qui peut se résumer, et là aussi le terme est inexact, à réaliste, relativement réaliste et assez précis, il est impossible, évidemment, au quotidien de suivre le temps qui passe avec un dessin comme ça, surtout qu'en fait, en réalité, c'est pas du tout un journal, c'est pas du tout quelque chose qui est daté ou redaté au jour près, etc. C'est un récit autobiographique dans le sens plus classique du terme, c'est-à-dire, et aujourd'hui, avec Le Dernier Sergent, on est plutôt même dans l'ordre des mémoires, ce qu'on appelle les mémoires. Voilà, donc c'est vraiment en ultra résumé, je pense pas qu'on puisse développer plus que ça, et à partir de là, je fais récit, c'est-à-dire que ce soit le réel, l'intime, je déteste ce terme aussi, on n'aurait pas le temps de développer non plus.
Mais est-ce que tu peux juste quand même le dire, pourquoi, très rapidement aussi, bon, et on a
c'est très personnel, c'est très personnel, l'intime pour moi, le mot intime, ça me fait penser à la salle de bain, quoi, enfin, c'est pas du tout ça, j'espère avoir un propos un peu plus large, un peu plus, surtout, aujourd'hui, on va dire, l'ambition, elle est un peu... en bande dessinée comme celle d'Annie Arnaud en littérature. C'est un peu prétentieux de le dire, mais bon, voilà, c'est de faire un peu un portrait d'une époque, d'un moment, d'un milieu culturel particulier, le milieu des jeunes artistes des années 90, se dévouant à la bande dessinée, et notamment à ce qu'on a appelé à l'époque le début de la bande dessinée dite indépendante. Là aussi, il faudrait préciser le terme, mais on n'aura pas le temps. C'est-à-dire qu'un moment...
Moi, je préfère que tu prennes un petit peu de temps et on parlera que de ça.
Un moment où il y a nécessité, on va dire, de faire avant-garde et de s'opposer un peu à une bande dessinée qui, à l'époque, je dis bien à l'époque, était en train, pour nous, de se scléroser autour, on va dire, du récit d'aventure. Donc c'est ce qu'on appelle le 46 pages cartonné couleur, avec... héritière de Tintin, en gros, de Spirou, donc c'est de l'aventure, le western, ce genre de choses. Et il y a un certain nombre d'artistes qui se sont dit mais la bande dessinée peut tellement faire d'autres choses, et on a décidé de l'ouvrir à l'époque, soit des expérimentations artistiques, graphiques, esthétiques, ça donne notamment tous les mouvements plutôt belges ou suisses, comme aujourd'hui les Fréon, Amok, ce genre de choses, soit le récit donc du réel, qui peut être soit du documentaire. Il y a aujourd'hui énormément de bandes dessinées documentaires ou on va dire journalistiques qui abordent des thèmes d'actualité, qui peuvent être le sexisme, le racisme, les événements, je sais pas, ça peut être aujourd'hui le Hamas, ce genre de choses, et puis tout un tas d'autres types de récits, dont entre autres l'autobiographie.
Est-ce qu'on pourrait dire, je vais te couper, hein. Ça va peut-être pas te plaire, mais je vais te couper. Je vais me permettre. Et je pense aussi aux gens, tu sais, qui sont pas des spécialistes de la BD, qui ont pas tout le vocabulaire, tout. Est-ce que j'ai l'impression que Le Dernier Sergent, mais tu voilà, je vais peut-être me tromper. Dans Le Dernier Sergent, c'est assez différent de journal, et parce que tu parles de documentaire, et qu'effectivement il y a des parties plus documentaires que.
Oui, j'entends ce que tu veux dire. C'est-à-dire. Disons que, voilà, je reviens sur l'historique. De fait, donc il y a, tu avais dit trois tomes, en fait quatre, mais c'est pas grave, mais le début de ce travail relate les événements, on va dire, de 1992 à 1996.
J'ai dit quatre, mais trois édités par Ego Comics.
Non, mais c'est qu'à un moment donné, les deux premiers tomes ont été réunis en un livre, mais ça n'a pas d'importance. Quoi, et en fait, alors j'ai perdu le fil. Voilà, les événements, c'est 92 à 96. La période de réalisation, c'est plutôt justement 95-96 à 2002. Donc, le premier tome a été publié en 96 et le quatrième tome a été publié en 2002. Le Dernier Sergent, lui, est publié en 2023. Donc, on rappelle le petit gap, etc. Donc, forcément, il y a une évolution. Forcément, il y a des. Pour moi, il y a une continuité totale, mais forcément, il y a une évolution. Il y a, j'espère, une bonne évolution. Et pour revenir justement au problème de l'autobiographie et pourquoi tu dis documentaire, etc., et pourquoi je n'aime pas le terme journal, c'est en fait, bon, moi, c'est par défaut de, par exemple, de parler de moi. En fait, moi, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, évidemment, parce que je suis à toutes les pages, mais c'est, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychosociologue, je ne suis pas tout ça. Je suis juste auteur de bande dessinée. Or, j'ai quelques avis et réflexions sur le monde qui m'entoure. Héritier des idéaux, on va dire, de gauche et de la réflexion de Bourdieu et tous ces gens-là, qui sont repris aujourd'hui, plus ou moins de manière heureuse, qu'on appelle la déconstruction, c'est-à-dire quand on choisit de réfléchir et de donner un avis sur quelque chose, il est bon de se situer dans le monde avant de se prononcer, c'est-à-dire de dire, voilà, moi je suis ceci, j'ai cet avis, mais je viens de ce monde-là. C'est-à-dire, je suis un homme hétérosexuel ou homosexuel, je suis une femme, je suis une personne racisée, je suis de ce milieu social, je suis de ce pays, je suis de ce continent. Aujourd'hui, ça prend énormément de place, d'ailleurs, mais c'est héritier de la réflexion de la gauche, sans doute des années 50-60, et qui commençait à bien se théoriser dans les années 70-80, et qui a débouché sur les mouvements militants, qui peuvent être les mouvements féministes, les mouvements LGBT et compagnie. Bref, donc, partant de là, moi, si je choisis de faire journal, une autobiographie, c'est que n'ayant pas d'autorité d'expert sur quelque sujet que ce soit, n'étant que auteur, je commence en disant, bah voilà, je m'appelle Fabrice Naud, je suis dans telle région ou tel pays, je suis un homme blanc et homosexuel. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, mais l'ambition, c'est de parler du monde.
Et en partant de ton expérience.
Humblement, en fait, pas mal de gens considèrent que l'autobiographie, c'est du nombrilisme et de l'égotisme et tout ça. Moi, je procède, à mon sens, d'un point de vue inverse. C'est-à-dire, je fais de l'autobiographie parce que je n'ai pas de compétences d'expert, et donc je suis obligé en permanence de situer ma tribune, de dire, voilà, donc je parle de moi. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, la case que tu cites est très bien, c'est qu'il n'y a pas d'intime, quoi, en fait. Il n'y a pas d'intime, il n'y a que du social et du politique, et sauf que je suis obligé de passer par toutes mes émotions et tous les événements qui m'arrivent avec le secret espoir de réussir à parler du monde. Voilà. Donc je pense que là déjà on a commencé à circonscrire un peu les choses. Pour revenir à ce que tu disais sur l'idée du documentaire et le fait que tu vois un changement dans le dernier Sergent, c'est que le fait je l'assume davantage, parce que tout le journal qui précède, donc il y a 20 ans, finalement, c'est presque une mise en place de qui est le petit gars qui parle et qui va dire. Et à partir d'une année Sergent, bah bon, ça commence déjà largement dans le tome 3 du journal, hein, qui explose déjà le truc. Mais à partir du dernier Sergent, je peux commencer, on va dire, à faire, voilà, nous sommes en 1998, on est au début de l'arrivée des trithérapies, par exemple, il s'est passé telle chose dans le monde, il s'est passé telle évolution scientifique à tel endroit, etc. Et moi, je suis là, à cet endroit-là, à ce moment-là, et qu'est-ce que ça induit dans ma vie, alors qu'il se passe ça et ça intimement chez moi, et voilà, c'est un aller-retour permanent, macro-micro, dans ce travail. Donc voilà, là, je pense qu'on a planté le décor, et on est déjà aux deux tiers de l'émission, j'imagine.
Je ne sais pas, on nous dira, on nous fera des signes, je pense. On reprendra l'antenne pendant des heures. Je suis perdue. Non, je ne suis pas perdue, je vais me retrouver. Dans le dernier Sergent, j'ai l'impression que tu donnes des clés sur la façon dont tu travailles. Moi, j'ai perçu ça, mais je ne sais pas.
Je le fais depuis le début, en fait. Je le fais dès le début, en fait.
C'est vrai, il n'y a pas plus
dans
de
clés. Dans le tome 4, il y a même des passages presque un peu pontifiants là-dessus, genre comment faire un livre. Quoi. Mais bon, oui, je t'entends, je poursuis. Fin...
Alors, moi, je n'ai pas vu, je vois pas des conseils pontifiants, peut-être que c'était vrai dans le dernier journal, mais plutôt des clés qu'on ne trouve pas forcément, mais avec la musique, l'insymphonie. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par la construction, que je trouve complexe, que je trouve incroyable, de case en case, qui reviennent des fois 15 pages plus loin qu'une émotion arrive, alors qu'elle est préparée. Enfin, c'est fou. Enfin, moi,
c'est écrit et très structuré. C'est pour ça que ce n'est pas un journal.
Mais oui, c'est pour ça que je parlais de construction complexe.
C'est une fictionnalisation. Et pour dire fictionnalisation, ça ne veut pas dire on raconte un truc fictif. Mais la fictionnalisation, c'est simplement le Quels outils utiliser pour faire récit, en fait, et pour
tu
faire
racontes narration. Forcément une nouvelle histoire avec du réel, même s'il y a des choses que tu as vécues.
Ah bah, si on devait faire le pitch uniquement de l'histoire, le dernier sergent, c'est le petit Fabrice a à ce moment-là une trentaine d'années et tombe à nouveau amoureux d'un mec qui ne voudra pas de lui, qui est un militaire, donc le dernier sergent, qui s'appelle Antoine, qui de fait, la personne réelle, est un ami aujourd'hui, et donc m'a donné l'autorisation de pouvoir raconter à la fois ce récit et le dessiner lui, car ce qu'il faut préciser, c'est que j'essaie de dessiner les personnes réelles, ce qui a pu poser problème. Alors, ce que tu peux soulever, c'est surtout que comme on est 20 ans après, mais malgré tout que le récit n'est que 2 ans après le récit du journal, c'est-à-dire on est à 98-2002, 98-2002 correspond au moment où le narrateur, donc moi, est en train de construire le tome 3 du journal. Donc également, tout le dernier sergent est traversé par le narrateur qui est en train de raconter, de réaliser les pages du tome 3 du journal. Donc c'est toujours évidemment une mise en abîme. Bah, ça raconte le récit d'un auteur de bande dessinée, donc est en train de faire ses bandes dessinées. Donc forcément, à un moment donné, les époques qu'il traverse, ce sont des époques sur lesquelles où il est en train de travailler sur un livre qui précède.
Et ça veut dire que dans le dernier sergent, il y a des dessins qui ont été faits il y a 20 ans.
Alors oui. Alors, il y a des croquis qui ont été faits il y a longtemps. Il y a des pages qui ont été faites il y a assez longtemps, notamment toutes les pages de rencontre avec la figure d'Antoine, et que j'ai dû corriger et redessiner partiellement depuis, parce qu'il y a eu un changement, pas de style, mais du moins il y a une évolution du dessin. Il y a certaines pages qui, à mon sens, ne seraient pas passées. Ma propre exigence ne serait pas passée. Donc il y a une scène en particulier. C'est pas de la censure, c'est juste de la correction. Et la scène éponyme du titre du livre, c'est-à-dire il y a une scène, un chapitre qui s'appelle Le dernier sergent, on va dire la révélation, c'est-à-dire le moment où j'apprends que le gars en question est bien un sergent, alors qu'il a dit avant qu'il était un mec qui était commercial dans la téléphonie. Dans la téléphonie, en fait, il était militaire, mais dans les transmissions, donc il avait juste dit. Donc ce chapitre s'appelle Le dernier sergent, avait été déjà entièrement dessiné à l'époque, non seulement entièrement dessiné, mais lors de mon exposition rétrospective au FIBD de 2010, cette scène avait été, les pages originales avaient été exposées. Donc la scène, elle a été dessinée antérieurement en 2010. Je pense autour de 2004-2006, j'ai dû la dessiner. J'ai pas daté à ce moment-là, mais voilà. Et cette scène, je l'ai entièrement redessinée parce que je la trouvais absolument plus exploitable aujourd'hui. Voilà. Donc, mais il y avait une centaine de pages déjà dessinées d'il y a longtemps, entre 2004 et 2006, par exemple, que j'ai corrigées ou reprises récemment, mais l'essentiel du récit aujourd'hui, c'est-à-dire les 3/4 voire les 4/5 du récit ont été dessinés à partir de 2020 jusqu'à sa publication, et le récit fait 416 ou 424 pages, quelque chose comme ça. Voilà.
421 pages
416 la même épaisseur que le tome 3 d'ailleurs du journal, à 4 pages près.
Peut-être que toi, bon, ça te paraît pas intéressant parce que c'est ton travail en fait, c'est ta vie. Mais moi, je suis assez fascinée. Je me demande comment tu fais, parce qu'il y a les dessins, il y a l'histoire, il y a la construction. Et puis, puisque tu parles de musique et de partition, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe, ce travail ? Est-ce que tu écris une partition ? Est-ce que c'est dans ta tête ? Est-ce que tu écris des choses ? Forcément, tu as des carnets de croquis, mais est-ce que tu écris aussi tout un tas de choses avec des flèches dans tous les sens ?
Alors, exactement ça, c'est-à-dire que tout est et tout fait matière. Dans la réédition du journal, donc le journal a été publié initialement par cette petite maison d'édition dont j'étais cofondateur, qui s'appelle Ego Comics, mais là a donc été réédité par le gros éditeur Guy Delcourt en 2023. Donc tous les 4 tomes réunis en 3 livres ont été republiés l'année dernière par Guy Delcourt en annonce de la relance, on va dire, de la franchise, avec le cycle suivant qui s'appelle Le Dernier Sergent et qui lui-même fera également normalement 4 tomes et dont le premier tome s'appelle Les Guerres Immobiles. Et la totalité du travail se subsume au titre esthétique des Brutes. Mais ça, c'est pas très important.
Mais je crois que je l'ai bien expliqué.
Je
crois que c'était pas mal.
Je resitue.
Sauf effectivement, j'ai compris maintenant, les 4 tomes ont été réédités en 3 tomes pour le journal.
Non, mais c'était déjà, passé en 3. Non, mais c'est pas important. On perd des secondes précieuses juste à parler de chiffres.
Allez, vas-y, continue.
Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. C'est pas grave, on arrive au bout. Oui, sur la méthode, dans la réédition du journal, donc tome 1 et 2 en un seul livre, chez Delcourt, j'ai adjoint une postface de 12 pages en bande dessinée, pour le plaisir, donc une bande dessinée là très bavarde, il y a des passages vraiment, c'est du gros texte lourd, simplement pour resituer pour le nouveau lecteur ou l'ancien, pourquoi 20 ans d'absence, pourquoi 20 ans de ceci, et dedans je dis en gros, de toute façon, attention, pour vous lecteurs, vous me voyez 20 ans après, mais moi j'ai pas chômé entre temps, j'ai fait plein d'autres choses, et surtout j'ai aussi continué ce travail autobiographique avec des pages qui n'avaient pas été publiées jusque là et qui sont dans les carnets dans tous les sens épars, et je fais une grande case à un moment donné où je mets au sol, je représente au sol de mon nouvel appartement la totalité a priori de tous les carnets qui m'ont servi de matière pour l'ensemble des livres qui ont été faits et des livres à venir ou des livres qui ne seront jamais faits, et également de tous les jeux de photos et de toute la documentation possible. Et si on devait étaler tout ça dans une espèce d'exposition, ça prendrait le Stade de France, quoi. Enfin,
ça m'étonne pas parce
c'est
que
monstrueux. Pour une page voire une case parfois, et surtout avec Internet aujourd'hui qu'il n'y avait pas à l'époque du journal, enfin où ça débutait en même temps que les trithérapies. C'est pour une case, je peux avoir 80, 150 images, photos, peintures pour une seule case, par exemple, où je vais juste extraire une main, un pied, une silhouette, un vélo, une voiture sous cet angle-là, et puis moi je reconstitue parce que j'ai un peu de métier, donc je peux faire. Donc il y a des cases, parfois c'est ça, et puis il y a des cases parfois, bon forcément c'est juste un bonhomme qui passe dans la rue, donc je commence à savoir me dessiner, je fais une silhouette qui passe comme ça, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à ton histoire de la méthode.
Si. Et je sais que dans tes livres...
Mais après, tout est dans ma tête, effectivement. Après, oui. J'ai pas de pré-découpage, ce n'est pas possible.
Ah oui.
J'ai pas de je suis en brut au moment de la réalisation. Il y a toutes ces notes. Je sais exactement depuis longtemps ce que je veux raconter, par quoi commence un livre, par quoi il est censé se terminer, ce qu'il est censé traverser, les événements qu'il doit raconter. Ce qui recouvre comme carnet, par exemple, que je vais pouvoir reprendre, ce qui recouvre comme jeu de photos du réel de l'époque qui vont pouvoir me servir, et à partir de là, bismillah, quoi, j'y vais en direct, ce qui fait que certains ont pu dire, mais finalement, c'est un vrai journal, c'est un journal. Mais bon, voilà, ça c'est... on pourrait en discuter très longtemps.
Moi, moi, je suis très impressionnée dans le sens où très longtemps, j'ai des cases... qui me reste, et notamment ce sont les cases silencieuses. Alors je ne sais pas si c'est étonnamment ou si c'est fait exprès, et parce que c'est quand même très bavard, avec beaucoup d'explications, et puis ce qui me fascine...
Dans un désert plat, tout fait relief, dans une bande dessinée très bavarde, dès qu'il y a une page de silence, les gens ils se disent « Ah bah tiens, c'est là que ça se passe !»
Mais non seulement il y a des cases silencieuses, mais des cases silencieuses qui se répètent, et qui reviennent.
Oui.
Et ça, je trouve ça incroyable, parce que comment on sait à quel moment, tu vois, est-ce que ça se fait au fur et à mesure c'est pareil, j'imagine dans ta tête.
Alors ça, non, en fait, ça, c'est les choses les plus pensées, j'ai envie de dire. Les plus écrites, les plus pensées. Je ne sais pas si ce sont à ces cases-là que tu penses, toi, peut-être que non, mais je pense là à une très précise qui revient régulièrement et qui me sert un peu de process, enfin qui fait partie d'un process, c'est toujours la grande comment dire, mon dispositif formel, c'est ce qu'on appelle le gaufrier. C'est le gaufrier, c'est une comme l'appareil, vous voyez, un appareil à gaufre, un appareil à gaufre, ça fait des cases, quoi, si vous voulez. Et en fait, moi, c'est le gaufrier de 9 cases, c'est-à-dire 3 cases sur 3, qui est le truc classique, on va dire, de la bande dessinée. Donc c'est 9 cases égales, etc. Et avec ces 9 cases, c'est une grille, et je joue avec. Ça peut faire une grande case, il peut y avoir une bande en haut, etc. Bon, là, la case que j'ai en tête, c'est une case qui fait les 2/3 de la page, donc qui fait 6 cases a priori, donc une case complète, qui est toute blanche, avec toujours deux personnes face à face, qui se font face, donc de profil par rapport au lecteur. Alors généralement, enfin toujours le narrateur, donc moi, sur la droite, légèrement de 3/4 dos, et là, l'autre personne qui lui fait face frontalement, toujours debout, les bras le long du corps, de la manière la plus neutre possible, et qui sont généralement des figures... plus qu'importante du récit à ce moment-là. Et cette case, par exemple, je la répète régulièrement de livre en livre. Je sais pas si c'était à celle-ci que tu pensais.
Non,
je pense
mais
que non.
Je te dirai après.
Mais voilà. Mais l'exemple aussi, de ça,
oui,
ça c'est pensé.
Il y a tellement de choses. Oh,
ça c'est pensé. Ouais, ça c'est pensé. C'est-à-dire, je sais que je répète cette case avec toujours une autre figure et moi habillé différemment, évidemment, suivant les événements. Parfois on est nu. Dans le tome 3, dans la version augmentée du tome 3, qu'il y a eu. Il y a une scène, j'ai rajouté quelques pages de représentation sexuelle explicite, par exemple, et là, les deux figures, les deux personnages, ça redevient très brillant, sont face à face, mais nus, le bras le long du corps, comme ça, frontal. Je pense à ce genre de choses. Mais il y a d'autres cases, et je suppose que tu as pensé à d'autres cases.
Oui, alors je pense peut-être parce que oui, il y a toujours beaucoup de bruit, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de nous.
On vous paraît très speed, chers auditeurs, mais c'est le dispositif dans lequel on est très, très...
Il y a tellement de gens qui nous acclament, Fabrice.
C'est embêtant.
ça va être ça. Moi, je pensais, oui, de toute façon, j'imagine bien que tout est une construction, et je pense que c'est pas un hasard si tu parles de la cinquième symphonie de Mahler et tout ça. Et j'ai même vu j'ai vu des liens avec la symphonie 1, 2, 3, 4, et ensuite, et ça devient organique. Enfin, je pourrais pas en parler parce que, puis, là, j'ai même pas terminé le livre, en fait. Et je me dis, mais des 10 ans d'analyse, en fait, 10 ans d'analyse. Non, je pensais aussi, au minimum, ouais. Divi. Non, je pensais aussi aux petites cases, ben, par exemple, l'enterrement, pendant l'enterrement.
Oui, oui. Ah oui, mais là on n'est pas sur des cases qui se ressemblent, on est sur ce qu'on appelle une itération iconique.
Mais ça, elle se ressemble presque, elle revient.
Oui, ça s'appelle une itération iconique.
D'accord, ça avance petit à petit.
Oui, 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 tout à fait, c'est une itération iconique.
Merci,
c'est-à-dire, c'est quasiment c'est quasiment le même dessin avec une subtile variation. Et là, comme tu le dis, c'est une colonne de personnes qui marchent lors d'un enterrement pour aller vers le cercueil, faire leur dernier recueillement. Donc, elles sont réduites à des silhouettes noires de profil sur fond blanc. Et de fait, je représente la marche. Donc, il y a une case où les personnages sont de profil pieds joints pour indiquer qu'ils ne marchent pas. Et la case suivante, ils ont les pieds de gens qui marchent. Parce que dans cette marche, en fait, il y a une espèce de scansion. C'est-à-dire, puisque chacun s'arrête devant le cercueil pour faire un dernier geste, poser la main sur le cercueil ou mettre une rose ou que sais-je. Donc, ça dure 7, 8, 9, 10 secondes par personne. Donc, forcément, les personnes derrière s'arrêtent. Comme au feu rouge d'un carrefour, quoi. La voiture passe parce que c'est vert, et puis la voiture s'arrête, etc. Et donc là, mais ça s'appelle itération iconique. C'est pas une répétition exacte de la case, mais ça pourrait.
En tout cas, c'est une répétition.
Il faut toujours une petite variation,
ouais,
en fait.
Ouais. C'est une répétition de la scène. C'est exactement la même scène.
C'est le dispositif d'un plan séquence, en fait.
Mais ce qui me fascine, c'est le moment où elle revient, en fait.
Oui.
Tu vois, peut-être 10 pages plus loin, ou je ne sais pas exactement, je ne sais plus.
C'est marrant que tu le dises, parce qu'initialement, l'éditeur n'était pas complètement convaincu de cette répétition.
Ah oui.
Et moi, j'avais prévu même 3 itérations. Mais en fait, la 3e itération, elle sera dans le livre 3.
Ouais, moi, c'est ce qui me fascine, en fait.
Bon.
Je
t'entends, Marlène. Ouais.
il nous reste 2 minutes. Est-ce que tu as commencé à écrire?
Alors, on va dire dessiner, parce que on subsume toujours la bande dessinée à l'écriture quand on pense que c'est un truc intelligent, entre guillemets. Et sinon, on parle de petits dessins, quoi, en gros. Mais moi, je dessine.
Ah non, surtout toi, c'est vraiment
C'est que le dessin prend 60 milliards 800 millions de temps puissance 12 plus que simplement techniquement l'écriture. Donc, oui, j'ai commencé le tome 2, évidemment, qui est annoncé à la fin du tome 1, parce qu'à la fin du tome 1, le narrateur est suspendu à une fête qui doit se dérouler dans la ville de La Rochelle et il se dit, bon, bah, je vais y aller. Alors que c'est déjà une montée à l'échafaud, quoi. Il sait qu'il va rien se passer, il sait que ce dernier sergent ne l'aimera pas, etc. Mais il va quand même au truc, etc. Tout le tome 2, c'est l'unique journée du 1er avril 2000. Le 1er avril, c'est un hasard. Et qui va être développé vraiment. Et là, sans didascalie, c'est-à-dire sans texte off. C'est vraiment. Et donc, ça sera 70 pages de silence au départ, c'est-à-dire. Le bonhomme est tout seul, il se réveille, il va s'habiller, il va prendre le train, il va à La Rochelle, il sort de la gare, il va aller manger un morceau, puis ensuite il va au rendez-vous de la grosse horloge de La Rochelle pour attendre le dernier sergent qui ne viendra pas et qui sera en retard de 2 heures, etc. Et tout le livre, ça va être ça. Et après, ils vont se rencontrer et parler. Donc ça sera que des dialogues. C'est vraiment une mise en scène comme ça.
Et pour terminer, je crois que j'ai lu quelque part que tu dis... On n'est pas obligé de lire tout le journal et dans l'ordre.
Non, pas du tout. C'est-à-dire, évidemment, à un moment donné, si quelqu'un. Le dernier sergent, achetez-le là, sans avoir besoin d'acheter le journal. Et puis, si ça vous intéresse, forcément, vous allez vous rendre compte que ça fait appel à des choses qui ont déjà été racontées, mais vous n'avez pas besoin, nécessité absolue d'avoir lu les tomes précédents pour comprendre celui-ci. Et même chaque tome indépendamment, on peut se lire comme ça. Tout le monde est assez intelligent pour se dire bah oui, ok, il a déjà dit des choses dans le tome précédent, mais ça ne manque pas, quoi, ça. Voilà.
Merci Fabrice.
Merci Marlène.
On s'embrasse.
On a réussi.
On a réussi.
Smack.
Bisous.